Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité, titulaire d'une maîtrise en politique internationale et d'un certificat de deuxième cycle en administration scolaire, montre un grand intérêt pour les questions relatives au droit international et touchant la protection des droits humains et des missions de paix dans les situations de crise. On peut imaginer qu'au gré du temps, elle a beaucoup voyagé. Nous accueillons avec grand plaisir la directrice générale de la Fondation du Cégep Édouard Monti, Marie-Josée Fizet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez beaucoup voyagé?
Oui, j'ai beaucoup voyagé. Bon, entre autres parce que je suis partie pendant, je dis toujours, pendant 3 ans, mais j'ai aussi voyagé avant parce que ce genre de périple-là à travers le monde et à travers soi, ça ne se décide pas un matin. Je pense qu'il faut tu as accumulé des choses dans ta vie. J'avais voyagé passablement et à un moment donné, bon, j'ai mis plusieurs choses en scène et j'ai dit, bien, c'est l'heure de partir. Je devais partir 1 an, ça a duré 3 ans.
Pour apprendre à vous connaître, je vous présentais comme étant la directrice de la Fondation du Cégep Édouard Monti. C'est quand même curieux que les maisons d'enseignement, comme les cégeps, aient maintenant des fondations.
Bien, il y en a de plus en plus. La nôtre a 20 ans.
Quand même.
La note a 20 ans et on a distribué en 20 ans pas loin de 10 millions.
Donc, des bourses d'études?
Ce sont surtout particulièrement des bourses d'études, mais aussi beaucoup d'équipements. Parce que les étudiants, aujourd'hui, doivent arriver sur le marché du travail avec une formation qui est complète. Et il faut aller chercher dans l'entreprise tout ce qui va leur servir. Donc, on a l'École nationale d'aérotechnique. On va chercher beaucoup chez Bombardier, Pratt & Whitney, les moteurs, chez Aerolia, chez Bell Hélicoptère aussi, pour permettre aux étudiants de travailler sur du concret. On fait la même chose au campus du Cégep avec orthèse visuelle ou prothèse dentaire, informatique aussi, où on demande...
Pour la formation d'enturologie,
exactement. Oui. Donc, on va demander aux grandes compagnies, qui sont aussi les futurs employeurs de nos étudiants, de nous fournir le matériel adéquat. D'un autre côté, ben, on va aider aussi des étudiants qui auraient des difficultés financières à, malgré le très bas coût des frais de scolarité, il y en a pour qui c'est beaucoup trop. Ils doivent travailler. Et on sait qu'en technique, principalement en technique, ça prend beaucoup d'heures. Donc, on va fournir ça. On récompense aussi beaucoup, évidemment, la persévérance scolaire. Et je fais bien attention de parler de résultats académiques plus que parce que ce n'est pas que les résultats académiques, mais la persévérance scolaire aussi.
Au niveau du cégep. Donc, l'intérêt qu'on montre à l'égard des
études. La vie parascolaire, l'implication des autres aussi. On va aider beaucoup. On fait aussi maintenant beaucoup des bourses post-études, c'est-à-dire des bourses qui permettent à des étudiants de continuer leurs études probablement ou de s'en aller faire des stages.
Alors, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui vous a amené un jour à devenir directrice de cette fondation. Mais vous nous avez apporté, parce qu'au cours de l'heure qui va venir, on va écouter beaucoup de musique, vous nous avez proposé un choix qui peut nous apparaître un peu singulier. Ce ne sont pas nécessairement des pièces qu'on entend tous les jours. D'ailleurs, la première, c'est une pièce interprétée par Amadou et Mariam. Quelques mots sur cette chanson.
J'adore cette chanson-là. Un mariage à Bamako, et pour en avoir vécu un, bon, à Maroua, au Cameroun, mais c'était similaire pour avoir vécu un mariage. Quand j'entends cette chanson-là, je revois les gens du village de Maroua aller se marier, l'importance que le mariage a, que l'union a, que la fête aussi a. Et je me rappelle très bien d'avoir été confrontée à mes valeurs cette journée-là parce que j'avais servi de père. Et je dis bien de père. Parce que j'étais blanche. Et j'ai dû beaucoup travailler sur toute ma conception, accepter l'autre dans ce qu'il était et dans ses propres croyances. Et quand j'entends un mariage à Bamako, Et en plus, bon, Amadou et Marianne ont une histoire aussi tellement fabuleuse.
Tout à fait. C'est un couple, hein, de leur nom complet, Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia. Ce sont des musiciens et des chanteurs maliens qui présentent la particularité, comme vous le mentionnez, d'être
aveugles.
Oui. Ils sont nés à Bamako, Mariam le 15 avril 58, Amadou en 54, le 24 octobre. Leur cécité n'est pas de naissance. Amadou a perdu la vue à l'âge de 16 ans, tandis que sa compagne est devenue aveugle à l'âge de 5 ans. Et c'est d'ailleurs leur cécité qui leur a permis de se rencontrer, n'est-ce pas, en 1975.
C'est vraiment une belle histoire.
Oui, à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. Ils se sont mariés en 80. Ils ont commencé leur carrière musicale commune à la même époque. Et ils ont gagné les Victoires de la musique en 2013 pour l'album Folila. Mais dimanche à Bamako, que vous nous proposez, nous allons l'entendre, elle remonte à 2004.
C'est une des premières, c'est la première chanson, je crois, qui les a fait connaître.
Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Bamako, c'est le jour de mariage. À Bamako, c'est le jour de mariage. À Bamako, c'est le jour de mariage. À Bamako, c'est le jour de mariage. 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 Et dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Et dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage.
Et c'est joli en plus.
Ah, c'est... Mais on les voit, je les vois. Je les vois sourire, je les vois chanter, je les vois danser. J'aime cette chanson. Et moi, je l'ai découverte beaucoup plus tard. Je ne l'ai pas découverte en 2004. Je l'ai découverte, je dirais, probablement en 2010. C'est drôle, hein, quand même, là, parce que, bon, il y a eu plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que je me suis intéressée à la musique africaine. Et cette chanson-là est arrivée pour moi comme un soleil.
Alors, on parle de l'Afrique parce que vous y avez séjourné.
Oui, à trois reprises.
Qu'est-ce qui vous a amené au départ pour la première fois en Afrique?
En fait, c'est un rêve d'adolescente. Moi, j'ai été éduquée chez les Sœurs de la Présentation. Et les Sœurs de la Présentation, à chaque année, nous faisaient rencontrer des missionnaires. Et je les trouvais extraordinaires. La seule chose, c'est que je n'avais aucune envie de devenir religieuse. Mais alors là, aucune envie. Et je me disais, moi, un jour, j'irai dans quelque chose qui me permettra de faire comme elles. Et je les trouvais... Vraiment, là, j'étais subjuguée. Je me rappelle d'une aussi qui était rentrée du Sénégal et puis elle nous parlait de ses amours d'Afrique et je me disais, ça doit être extraordinaire. J'ai déchanté beaucoup de ce rêve-là parce que la réalité dans laquelle j'ai été plongée était complètement différente. Je vous avouerai très sincèrement que j'étais partie avec un beau rêve et que mes valeurs...
Idéalisée,
c'était pour être extraordinaire. Je m'en allais faire aider à l'organisation et l'implantation de la scolarisation des jeunes filles et moi, j'avais la recette.
Oui, vous alliez changer le monde.
Ah, bien, c'est clair. Je partais
mais c'est
pour
normal.
Ça.
Lorsqu'on est jeune, on veut changer le monde.
C'est ça. Bien là, je t'ai rendu à 44 quand même. Tu sais, mais il en reste que c'était ça. Et puis, bon, bien, j'ai eu une séparation dans ma vie. Mes enfants étaient grands. Mon fils le plus jeune, qui à ce moment-là avait presque 17 ans, voulait aller rester avec son père. J'avais toujours rêvé de ça. Je me suis dit, c'est l'heure. Si je ne le fais pas maintenant, j'étais tannée d'enseigner.
C'est maintenant ou jamais.
C'était maintenant ou jamais. J'en avais assez. Je me disais, j'en avais assez. Et j'ai tout mis en scène pour que ça fonctionne. Je suis allée voir le père de mes enfants, duquel j'étais divorcée depuis plusieurs années, aussi pour lui dire « qu'est-ce que t'en penses? » Parce que je lui laissais un beau paquet. Bon, vous allez me dire « oui, mais 19 ans, 21 ans, 25 ans, on s'entend là. » Mais il en reste que... Il fallait que j'aie pas son approbation, mais probablement, quelque part. Il m'a dit « oui, je te comprends. » Je te comprends. Depuis que je te connais, que tu en parles, fais-le.
Ouvre tes ailes.
Fais-le.
Et prends ton envol.
Fais-le. Et comme on dit toujours, un avion, ça se prend dans un sens, ça se prend dans l'autre.
Vous nous proposez une pièce qui n'est pas africaine, mais
non.
Qui parle des Roms. Roms, c'est un terme qui désigne l'ensemble de populations ayant en commun d'être des minorités vivant en Inde, entre l'Inde et l'Atlantique. Elles sont présentes en Europe depuis le 11e siècle. Pourquoi cette pièce?
En fait, c'est Grob.
Oui.
Grob, c'est le projet de Serge Denoncourt, qui est un grand metteur en scène québécois, qui un jour est allé en Europe et a rencontré cette gang de jeunes-là.
Parfait. On en parle. On va écouter d'abord la pièce, puis vous nous préciserez ça tout de suite après. La pièce a pour titre
Aven. 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 Aven.
Ciao, so tu me che va che già romani informazia tu me che kai din cha so so bisogna so di che nari tu me sarve di kelen manca va cava romani va te di che va di che so ta che ra tu me che già giva va amaro vivo tu me che a me capra va tipo pro ani musica a me c'era na si am cor se lo se tu so bisogna la cori salvo sta che ne di che na che na i romani musica so che ro va cale a me si io si si am roma sari yenki kotelo se to manga te presina amari romani
Grob, pour moi, en fait, c'est Serge Denoncourt qui m'a vendu Grob au départ. Hein? Parce que quand on est dans ce monde du développement international, de la coopération humanitaire, on aime ces belles histoires-là. Mm-hmm. Et les Romains Michel ou les Roms ont très mauvaise presse aussi, on ne les connaît pas. Et lui est arrivé avec un projet en prenant leur potentiel, leur talent. Il leur a dit, je vais vous amener partout. Je vais vous faire découvrir. Et ces jeunes-là existent encore aujourd'hui. Certains vont à l'école. Et c'est une histoire qui est merveilleuse. Ils sont revenus l'année passée.
Oui.
Et il y a un projet qu'ils reviennent l'année prochaine.
25 musiciens, hein, des rappeurs, des chanteurs, des musiciens, des danseurs.
Ils ont un talent fou.
Tout à fait.
Et ça les a donné aussi accès à l'éducation.
Et d'ailleurs, GROB, c'est un acronyme pour Gypsy Roma Urban Balkan Beat. Comme vous le disiez, c'est Serge Denoncourt. Des jeunes qui ont entre 14 et 20 ans, dont les projets aussi leur permettent effectivement, comme vous le disiez, peut-être de mettre en place des projets d'éducation.
Oui.
Et de surtout retrouver une certaine valorisation de ce qu'ils sont.
L'estime de soi.
L'estime de soi.
Avoir de l'estime, parce que quand on vient de cette population-là, où on est beaucoup ostracisé, d'être capable de prouver au monde entier qu'on a du talent, qu'on a du potentiel.
Alors, c'est la prochaine chanson qui, moi, c'est mon petit cadeau. C'est celle de Michel Fugain, parce que, bon, on est avec Marie-Josée Fizet. On la connaît pas encore beaucoup, mais vous voyez qu'elle nous parle d'Afrique, elle nous parle de ce projet de Serge Denoncourt avec des Tziganes, des Roms Michel, comme vous le disiez. Mais on sent dans vos projets un élan du cœur, le goût de chanter, d'exprimer. C'est ce que nous dit Michel Fugain.
De faïence, où passent les gens pressés, rien n'avait plus d'importance que briser l'indifférence. J'ai chanté sur les plages et dans les dunes, où les filles vont l'été, sans diplôme et sans fortune, pour les voir s'abandonner. J'ai chanté, nanana, j'ai chanté. J'ai chanté, nanana, j'ai chanté. Dans les bouges et les palaces, où passe la société, magnifique ou dégueulasse, je voulais trouver ma place. J'ai chanté dans le brouillard des paillettes, en m'approchant au plus près du miroir aux alouettes, pour rester ce que j'étais. J'ai chanté. J'ai chanté, nanana, j'ai chanté, nanana, j'ai chanté. J'ai chanté. Au mariage, au baptême, aux fêtes carillonnées, des je te hais, des je t'aime, même seul avec moi-même, dans la solitude ancienne, où mon cœur s'en est allé, au plus profond de ma peine, en silence et en secret. J'ai chanté, nanana, j'ai chanté. J'ai chanté.
Michel Fugain, j'ai chanté, et avec nous, Marie-Josée Fizet, qui est directrice de la Fondation du Cégep Édouard Monti, et qui nous fait découvrir un parcours de vie pour le moins singulier, qui est probablement né de votre tendre enfance.
Oh, probablement. Probablement. C'est drôle parce que j'ai quand même une soeur qui est expatriée en Suisse et qui est infirmière depuis des années. Mais j'ai pas l'impression que j'avais ce destin-là, malgré tout.
Mais les religieuses vous en ont donné le goût,
quand
même.
Oui, beaucoup. Beaucoup. Ouais. Moi, j'étais chez les Sœurs de la Présentation, ouais. Et je leur suis très reconnaissante de la femme que je suis aujourd'hui. Et quand j'en rencontre, parce que j'en ai encore, je les remercie toujours. Elles nous disaient toujours, les filles, vous êtes capables. Les filles, vous êtes aussi bonnes que les garçons qui sont à côté. Les filles, il y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Je m'en rappellerai toujours. Je me rappelle encore de sœur Réjeanne, de sœur Noémie, de sœur Thérèse. C'était toujours le leitmotiv. Aller au bout. Aller au bout. Et je pense que c'est ce que j'ai fait.
Mais lorsqu'on va au bout, Marie-Josée, est-ce que c'est pas épuisant parfois? Dans la mesure où on s'en demande beaucoup.
On s'en demande beaucoup.
On exige beaucoup des autres également, je présume, parce qu'on veut que les projets que l'on a en tête se concrétisent. Donc, ça prend une force de travail, ça prend une force d'esprit aussi pour pouvoir arrimer tout cela.
Mais il y a des choses que j'ai compris. Je n'ai pas pu mener tous les projets que j'aurais voulu.
Heureusement.
Mais j'ai appris, principalement en Afrique, qu'il faut appliquer la théorie des petits pas. Alors, en appliquant la théorie des petits pas, on fait un pas, on regarde où on déposera le pied la prochaine fois. Et avec ça, on va composer avec ce qu'on a. Malheureusement, on ne peut pas toujours marcher 10 kilomètres, mais des fois, un kilomètre peut en entraîner un autre après.
Un pas à la fois.
Un pas à la fois, et j'ai appris ça, et je pense que c'est pour ça que je suis partie à chaque fois avec l'esprit du devoir accompli, en me disant, voilà, j'ai laissé ce que j'avais à laisser. Et puis, ben c'est dans leurs mains aujourd'hui. Même si au départ, je pensais d'aller changer le monde, je me suis rendu compte que je pouvais donner des outils, je pouvais donner tout mon cœur.
Mais à la base, il faut avoir cette capacité de rêver.
Ah, ben si on n'a pas, on reste chez soi. Parce que j'en ai vu, moi, des gens dire...
Contempler la lune, peut-être, et puis se mettre à imaginer un monde nouveau.
Oui, mais il faut y croire, faut investir dans la vie.
Alors, Marie-Josée, puisqu'on parle de lune, je vais vous faire entendre le chant de la lune, l'air célèbre de cet opéra de l'orchestre d'Anton Dvorak, avec l'Orchestre philharmonique tchèque dirigé par Václav Neumann. C'est l'air de la lune de l'opéra Rusalka. La soprano slovaque Gabriela Benečková a terminé sa tournée de Récital d'adieu en 2008, mais heureusement, elle a laissé de nombreux enregistrements. Et ça va nous permettre peut-être d'imaginer nos rêves à soi, parce qu'on en a tous.
Oui.
Et vous qui êtes à l'écoute, ben c'est peut-être l'occasion de pouvoir éventuellement imaginer qu'il pourrait devenir possible de les réaliser.